Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
I watched that video and it was horrible and I feel like it's work of a monster. I'm a mother and it feels so horrible.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Le Dark Web, c'est l'endroit où l'on retrouve les côtés les plus sombres de l'être humain, à l'abri des regards.
Les chambres rouges ou encore les Red Rooms sont parmi les plus grands mythes du Dark Web.
On dit de ces chambres qu'on y torturerait des gens, en direct, devant la caméra.
Est-ce que ces Red Rooms sont bien réels? Ce soir, nous présentons quatre histoires qui vous donneront froid dans le dos, aux frontières du réel et de la fiction.
Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu?
Ça va très bien Seb, parce qu'on est déjà à notre deuxième épisode de la saison 5. Les choses se passent, puis c'est pas mal excitant. Et toi?
Même chose que toi, ça va très très bien. Nos enregistrements avancent. On découvre beaucoup de nouvelles histoires pour vous dans cette saison 5. Mais ce soir, on a un cas particulièrement... En fait, on a plusieurs cas particulièrement durs à vous raconter.
Oui, exactement. C'est pour ça que l'épisode de ce soir renferme quand même du contenu assez explicite. Donc, si vous écoutez Distorsion dans un espace ouvert, je sais pas moi, dans une cuisine ou dans un entrepôt ou quelque chose comme ça, ben c'est peut-être pas le meilleur épisode à écouter en groupe. Ça fait quelques fois qu'on se le fait demander, puis nous aussi, c'est un sujet qui nous fascine depuis quelques années quand même, les fameuses Red Room, à savoir est-ce que ça existe ou pas. C'est les chambres de torture, qu'on retrouverait dans des endroits réels dans le monde. Et puis, de ces chambres de torture-là, on diffuserait donc des vidéos de torture, de viol et même de meurtre à des clients sur le Dark Web, donc en live streaming. C'est une question qui fait beaucoup jaser. Il y a énormément de YouTubers aussi qui ont traité du phénomène, mais la question qui demeure, c'est un peu, est-ce que tout ça, c'est de l'invention ou est-ce qu'il y a vraiment un fond de vérité là-dedans. Puis ce soir, on a fait un petit recensement de quelques histoires. Certaines sont complètement fausses et certaines sont malheureusement bien vraies.
Oui, puis c'est ça qui est triste, en fait, de ça, c'est qu'on dirait qu'on aurait préféré que le mythe des Red Room reste un mythe, en fait, et que ça... Et malheureusement, un peu comme tu le dis, il y a des vrais cas de gens qui ont été torturés, violés et même tués et filmés et distribués sur le Dark Web. Donc, c'est assez inquiétant quand même. Mais on trouvait que, même si c'est un sujet très difficile, On trouvait ça vraiment important de vous en parler parce que c'est une réalité du dark web.
Oui, c'est une réalité aussi, le trafic humain, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, qu'on a déjà parlé à quelques reprises à Distorsion, puis on n'aura pas le choix d'en parler encore une fois aujourd'hui. C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, puis qui fait rage aussi dans des pays un peu plus pauvres.
Oui.
Il y a une histoire qu'on va vous raconter ce soir qui se déroule aux Philippines, puis franchement, les enfants défavorisés dans certains petits villages, certaines régions, le plus pauvre des Philippines, ça fait dur, là. Ah, c'est oui. très difficile.
C'est là qu'on voit un peu les impacts et les conséquences d'une pauvreté extrême d'un peuple. La personne qui va prendre en charge l'enfant leur offre une meilleure vie, mais finalement, on se rend compte que c'est un piège.
Exactement. On a des histoires quand même assez intéressantes pour vous ce soir. Certaines plus difficiles, d'autres beaucoup moins.
Oui.
Puis, on espère que ça va vous plaire. Mais pour passer au travers de tout ça, là, qu'est-ce qu'on boit, Seb, ce soir?
Ce soir, on boit la Wild Blue Yonder, qui est une bière forte, au mur, vieillie dans des barriques de chêne. Elle est brassée par la microbrasserie Small Pony Barrel Works de Kanata, en Ontario.
Oh oui!
C'est une bonne bière sûre, hein? C'est différent. D'habitude, on n'en a pas tout le temps des bières surettes.
Non!
Mais celle-là, elle est très, très bonne.
Oui, vraiment de couleur, le petit fruit, le framboise un peu, là.
Oui, oui, oui. On boit presque du jus.
Exactement. C'est délicieux, malgré le fait qu'elle n'est pas si faible que ça. 6,4% d'alcool, cette
bière. Ah, quand
bière,
même,
hein? Ouais, délicieuse. Elle nous est offerte par Selena, cette bière. Et si vous voulez faire comme Selena et nous offrir une tournée de bière, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com dans l'onglet Tournée de bière, et c'est une excellente façon d'encourager le show, et vous pouvez en même temps nous suggérer une bière de votre région.
On a aussi un shout-out pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de 5665 de la Suisse. Je me demande si c'est pas un nom d'utilisateur qui a été encrypté, là, un genre
peut-être.
De nouveau cicada. Elle nous dit, ou la personne nous dit plutôt, « J'adore, je suis complètement accro. Mon seul regret est de ne pas pouvoir partager les découvertes de bière parce que la Suisse est trop loin du Québec. »
Oui, évidemment.
« Longue vie aux distordus. »
Mais il y a quand même des cas de gens qui nous ont suggéré des bières d'outre-Atlantique et on a réussi à les boire parce que souvent, il y a des endroits où on peut trouver des bières de différentes régions européennes ici au Québec.
Ben oui, absolument. Il y a toutes sortes d'importations.
Aussi, on vous rappelle évidemment que le show Distorsion, la série documentaire télé est diffusée chaque semaine à 20h30 les mercredis sur Moi et compagnie. Et cette semaine, justement, on abordait un sujet du dark web.
Oui.
Et on faisait une interview avec le père d'Alexandre Caz, qui est une interview exclusive qu'on a menée avec lui.
Oui.
Pas facile. Donc, après deux ans après le décès de son fils en prison, son fils Alexandre Caz, qui avait fondé Alphabet, un des plus grands marchés noirs du dark web dont on a traité dans une saison passée.
Oui.
On a aussi eu la chance d'interviewer un consommateur du dark web.
Oui.
C'était quand même une interview intéressante. Et puis, vous allez voir, contenu exclusif, on va diffuser ça un peu plus tard cette semaine sur nos réseaux sociaux. Dans le cadre de la série télé, ça se retrouve pas dans la série, mais ça se retrouve sur le web. Moi et Seb, on s'est commandé une mystery box du dark web. Donc, on sait, il y a plusieurs YouTubers qui ont lancé cette mode-là là, au courant de la dernière année. On se commande des boîtes mystères et tout ça. Donc, moi et Seb, on a dit, on va débunker un peu ce phénomène-là et on va s'en commander, nous aussi, des boîtes mystères. Donc, on vous spoil pas trop, mais on va vous poster ça cette semaine.
Yes.
Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger au cœur des Red Rooms du Dark Web?
Oui, monsieur.
C'est parti. Nous sommes à quelque part en 2015. Le Dark Web est vraiment populaire. On se rappelle, le Silk Road 2.0 vient d'être fermé. On discute encore de Russ Ulbricht, là, qui avait fondé le premier Silk Road dans les médias parce qu'il avait été condamné le quelques mois plus tôt.
Oui.
On commence à voir beaucoup de reportages dans les médias à propos des achats que l'on peut faire sur le dark web. On tapisse les sites web d'articles alarmistes à propos des sites web pédopornographiques que l'on peut y retrouver. Bref, le dark web est le mal désigné. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là.
Ah oui, ben oui, puis c'était... c'était quand même, c'est ça, c'est les premières époques où ce que c'était vraiment médiatisé.
Mm-hmm.
Puis il y avait, c'était encore, déjà que je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore l'aspect mystérieux du dark web, que les médias en parlent, mais à cette époque-là, c'était tellement nouveau que c'était encore pire. Là, ils parlaient tous un peu, je trouve, pas en vraie connaissance de cause, en fait. Ils répétaient un peu ce que les autorités disaient, mais j'avais l'impression que les journalistes comprenaient pas tant le mode de fonctionnement du dark web puis comment y accéder.
Il ne faut pas oublier là, que quelques mois plus tôt, en décembre 2014, Luca Rocco Magnotta a été condamné pour un meurtre dont la vidéo avait été diffusée sur le web de surface et avait ébranlé le monde entier. À l'époque, sa vidéo avait été considérée un peu comme un snuff movie, là, c'est-à-dire une vidéo ou un long métrage mettant en scène de la torture ou encore des meurtres, des suicides ou le viol d'une ou de plusieurs personnes. Dans ces films clandestins, là, les snuff movies, la victime est censée ne pas être un acteur, mais une personne véritablement réelle là, qui est tuée ou encore torturée live devant nos yeux. Il y a plusieurs films même là, dans l'histoire du cinéma qui se sont inspirés de ce concept-là au fil des années. Je sais pas si t'en as vu quelques-uns. Un des premiers qui avait mis un peu en lumière au grand public, du moins, le concept de snuff movie, c'était 8 mm, là, le film de Joel Schumacher avec Nicolas Cage.
Oui, il m'avait traumatisé ce film-là à l'époque parce que je savais pas ce que c'était des snuff movies. Puis on dirait que, tiens, 99, le film date de 99, c'était quand même dans les débuts de l'Internet, en 99. Je suis pas convaincu que j'avais connaissance du dark web ou que même ça pouvait exister pour vrai.
Non.
Mais je me souviens du traumatisme que j'ai eu quand j'ai écouté ce film-là. On dirait que j'arrivais pas à croire que ce genre de choses-là pouvait arriver, là, que des gens pouvaient se faire enlever contre leur gré et se faire torturer pour être ensuite distribués. Là. Dans le film, si je me rappelle bien, il y avait aussi c'était pas nécessairement par le web, là, c'était quasiment
non, c'était pas du tout par le web.
C'est ça, exact, oui, c'était des cassettes VHS, si je me trompe pas, là, où il y avait un genre de trafic et de distribution. Et oui, ça m'a marqué, toi. Est-ce que tu l'as déjà vu, ce film-là?
Oui, bien sûr. Ben, moi aussi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Là, il me semble que c'était un film qui était quand même 18 ans et plus, tout ça. Donc, très dur. Il y a eu aussi la série The Hostel, L'Auberge, qui a mis aussi la lumière sur le concept un peu de snuff movie. Puis eux, ils introduisaient le concept un peu d'une chambre de torture où des millionnaires pouvaient avoir accès dans le but de se divertir en torturant quelqu'un. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, on dirait, le concept de Red Room. Il y a des gens qui payent un grand prix, là, un gros prix pour avoir accès à une chambre de torture comme ça où il y a des gens qui sont torturés devant nous, excepté du fait qu'ils le font pas réellement.
Non, exact.
Il y a aussi ceux qui connaissent un peu plus le cinéma de underground, je dirais, il y a un des fameux films qui a un peu mis la lumière là-dessus, c'est August Underground, qui est un film avec des acteurs, mais qui laisse vraiment, qui a vraiment un style comme si c'était vraiment un vrai snuff movie, très très violent, filmé avec une caméra cheap, qui bouge beaucoup, c'est en noir et blanc, c'est un film quand même assez difficile, mais qui est un peu à la genèse aussi de ce courant-là. Bref, ça avait vraiment brouiller les pistes.
OK, parce que je ne le connais pas du tout, August Underground.
Tu peux en trouver sur YouTube, là, mais c'est quand même assez difficile. Là, ça revient souvent dans les top films d'horreur, là, les films les plus extrêmes, là, d'une certaine façon. Il y a aussi, c'est arrivé près de chez vous, un film belge qui aussi, lui aussi, avait semé un peu le doute. Ben, tu sais, c'est clair quand on regarde ça que c'est des acteurs et tout ça, mais c'était tellement réaliste que vraiment, ça devenait assez troublant.
Oui, je me souviens de ce film-là aussi.
Puis si on va dans le plus extrême encore, dans les films d'horreur, A Serbian Film, en fait, qui est un film qui date de quelques années, un film serbe, où justement on ramène encore ce concept de torture sexuelle qui est filmée, qui est distribuée encore une fois à des millionnaires, tout ça. Donc, il y a vraiment un aspect très très hollywoodien aussi à ce concept-là de torture filmée, puis aux gens qui payent le gros prix pour assister à tout ça. C'est un peu dans cet élan de paranoïa là, autour du dark web et de snuff movies que le concept de Red Room fait surface. Selon les internautes, là, une Red Room, qui est un peu une contraction de murder à l'envers, hein, on se rappelle du Red Rum, murder à l'envers, mais Red Room, c'est comme une petite variation. En même temps, ça laisse entrevoir une chambre pleine de sang, rouge sang. Mais une Red Room, c'est une vidéo filmée en direct là, de la torture ou du meurtre d'une personne diffusée sur le Dark Web. La rumeur dit aussi là, qu'il faudrait payer une somme astronomique pour y accéder. Hélas, l'opinion des internautes est très divisée. Certains sont convaincus qu'elles existent, d'autres prétendent qu'elles ne sont qu'un mythe en raison de plusieurs faussetés qui ont été véhiculées sur le net au courant des dernières années, et on va y revenir rapidement.
Oui. Ceux qui croient que les Red Rooms sont fausses évoquent souvent des arguments comme « ce sont des acteurs » ou encore « il est difficile de streamer sur Tor, c'est trop lent » ou encore « c'est bien trop compliqué, il faut créer un domaine et le détruire après, etc. » Ceux qui croient que ça existe évoquent le fait que, avec tous les revenus que peuvent occasionner ces diffusions pirates, ils ont bien les moyens de se payer des serveurs et des domaines informatiques.
Oui.
Ce qui est vrai, hein. En fait, un domaine, ça coûte pas grand-chose, même sur le dark web, c'est pas ça qui coûte le plus cher là, dans l'installation des installations. Là.
C'est, non.
C'est, je trouve que c'est une drôle d'excuse de mentionner.
Oui,
ça.
Ben, je voyais aussi que des gens sortent cette excuse-là sur Reddit aussi ou sur 4chan, comme quoi, ben, pour accéder au dark web, on utilise Tor, le logiciel, ouais. The Onion Router, pour rester anonyme et accéder au fameux site Onion.
Ouais.
Par contre, les gens disaient que ben, Tor, c'est extrêmement lent. C'est vrai, c'est lent.
Oui, oui, c'est plus lent. Ouais.
Donc, pour streamer, pour faire de la vidéo en direct, c'est vraiment pas l'idéal. Sauf qu'on le sait très bien, toi et moi, qu'il y a plein de façons de contourner ça. Puis on va même en discuter un peu plus tard. Ça se peut très bien que ces Red Rooms-là soient au final sur le web de surface.
Oui, exactement. Il y a des témoignages qui existent sur le net de gens qui se sont échappés de chambres de torture et qui se rappellent avoir été filmés. Apparemment qu'il s'agit même d'une source de revenus de l'État islamique qui filme à peu près tout ce qu'ils font. Le peu de témoignages sur le web de surface qui entoure les Red Rooms explique qu'ils se sont dirigés vers un site Onion, qu'ils ont accès à une fenêtre de chat et qu'après la diffusion, le site est complètement détruit. Les gens peuvent payer des milliers de dollars pour assister à ces diffusions-là. Souvent, ces diffusions ne sont pas vraiment en direct, elles sont plutôt filmées d'avance et par la suite sont streamées sur le net. Comme ça, il est beaucoup plus difficile, enfin je crois, pour les autorités d'intervenir sur un crime en direct. Hein. Au contraire, cela permet aux criminels d'être déjà partis au large.
Oui.
Parce que justement, quand c'est un stream en direct, on dirait que même si ça passe par des VPN, veut pas, ça laisse une trace un petit peu plus précise de où ce que la diffusion origine. Mais lorsqu'on le fait, disons, offline au départ, qu'on le filme dans un sous-sol, étant donné que c'est pas connecté à Internet, c'est plus difficile d'identifier la source par la suite parce que ce fichier-là peut avoir été envoyé par Internet, mais par des VPN à quelqu'un d'autre que lui va le streamer. Donc là, il y a beaucoup de ouais. points de repère qui se perdent. Donc, c'est vrai que ça devient plus difficile pour les autorités à les retrouver de cette manière-là.
C'est vrai ce que tu disais sur l'État islamique aussi. On se rappelle que ces années-là, là, 2015, oui. il y avait beaucoup d'exécutions qui étaient filmées par l'État islamique. Donc, on dirait qu'à quelque part, ça me surprend pas tellement d'eux de pouvoir recycler ce contenu-là puis de le vendre par la suite.
Aujourd'hui, on a quelques histoires de Red Room à vous présenter. Certaines sont fausses, mais malheureusement, d'autres sont tellement réelles qu'elles défient la fiction.
Commençons tout de suite avec le mystère d'Alicia. Nous sommes à quelque part en 2015. Plusieurs internautes font état d'un étrange site Onion qui sème à la fois l'inquiétude et la fascination. On se rappelle qu'un site Onion, c'est sur le dark web, ça remplace un .com. Sur ce site, on y trouve l'inscription Alicia, comme le nom d'une fille, ainsi qu'un compte à rebours. Des phrases sont aussi inscrites en portugais. La première d'entre elles indique « Appelez-moi, montrez-moi vivant, montrez votre peur et votre faiblesse. » Donc, drôle de syntaxe, mais on a traduit tout ça du portugais. En bruit de fond, on entend des sons là, bizarres et des effets sonores étranges. On croirait entendre quelqu'un crier à un certain moment. Au bas de la page, on y retrouve l'image d'un cicada, vous savez, là, un étrange papillon de nuit. Ce qui n'est pas sans rappeler l'énigme du même nom, dont on a parlé dans un podcast précédent. Est-ce que c'est lié? On va voir plus tard. Il y a aussi un étrange espace au-dessus du nom Alicia, comme s'il y avait du texte qui avait été caché. Lorsque l'on survole l'espace avec la souris, on y voit un texte écrit noir sur noir. Mmh. Et là, des utilisateurs de Reddit ont traduit le texte du portugais. Il s'agit d'un genre de texte très énigmatique qui ne fait pas trop de sens. On y réfère souvent à la création divine. On fait souvent référence à une personne comme étant justement la création divine, mais on ne sait pas exactement de quoi il parle. Est-ce que cette personne représente la victime de la Red Room? Peut-être. On y retrouve aussi une phrase étrange et mystérieuse tirée de l'œuvre de Friedrich Nietzsche, le philosophe. Et cette phrase, c'est cette citation: « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. » Et cette phrase, ça vaut la peine, je pense, d'en parler un peu, là, parce que ça fait peut-être du sens avec l'histoire d'Alicia. Là. Cette phrase-là de Nietzsche est tirée de son ouvrage « Par-delà bien et mal », et pour la comprendre, il faut aussi analyser la phrase qui vient juste avant dans son ouvrage. Et cette phrase-là, c'est, je vous l'ai dit au complet, « Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. » Et c'est là qu'il complète « Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. » Et là, j'ai fouillé un peu là-dessus parce que ça a piqué ma curiosité. Et un professeur, là, Florian Kova, du département de philosophie de l'Université de Genève, qui, lui, y trouve plusieurs sens à cette citation. Okay. Celle qui semble plus universelle explique que lorsqu'on contemple le mal pendant une longue durée de temps, on finit par devenir nous-mêmes le mal. Bref, que le mal corrompt, donc même si on tente de le combattre. Et ça fait un peu de sens ici, parce que dans le contexte de cette Red Room, si on regarde, en fait, peut-être qu'on essaie de nous dire que si on regarde la torture assez longtemps, nous devenons peut-être nous-mêmes bourreaux, en quelque sorte.
Bien sûr, oui, par procuration.
Exactement. En plus de ça, là, je reviens à notre site d'Alicia. Il y a cette phrase de Nietzsche, mais en plus, il y a des gens qui ont analysé le code source de la page. Puis c'est là qu'on y trouve là, certaines phrases cachées, toujours en portugais. Une fois traduite, il y a une phrase qui nous dit « Vous ne trouverez pas la vérité dans un code. Vous mentez, nous sommes la vérité et celle-ci vous trouvera. » Et une autre phrase est découverte dans le code et elle nous dit « Et la porte s'ouvre sur un nouvel élu. » Est-ce que cet élu est une nouvelle victime, justement? Tout ça est très, très énigmatique. Sur Reddit maintenant, là, dans la section Deep Web, quelqu'un témoigne de son expérience en expliquant qu'il a lui-même attendu jusqu'à la fin du compte à rebours sur le site Onion là, à l'époque, sur le site d'Alicia.
Ouais.
Lorsque le compte à rebours s'est terminé, selon son témoignage, l'écran est devenu complètement noir. En bougeant la souris dans le coin supérieur droit, il a trouvé un bouton pour lancer le stream, pour lancer la vidéo en direct, ce qu'il a fait. L'écran est resté noir. Toutefois, il y a des sons de machinerie qui se sont fait entendre. Et à un certain moment donné, là, on croit entendre quelqu'un se faire fouetter, même une femme crier, hurler de terreur. Est-ce qu'il s'agit d'Alicia? On n'en sait rien. Toutefois, on ne voit toujours rien sur le stream, selon cet utilisateur de Reddit-là. Très étrange. Le site est resté en fonction très longtemps, pendant des années même, et on y voyait toujours un compte à rebours apparaître sans qu'une autre réelle vidéo démarre. Donc, ça semble s'être terminé comme ça, un peu poète-poète, sans qu'il y ait rien au bout. Donc, tout porte à croire que cette histoire est une genre de supercherie, ou peut-être même que c'était des gens qui tentaient de sensibiliser les internautes au phénomène des Red Rooms, étant donné la citation de Nietzsche. Donc, tout demeure très mystérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de cette histoire-là, si tu en avais déjà entendu parler, toi, Seb?
Non, avant qu'on fasse la recherche, non, j'avais jamais entendu de parler du cas d'Alicia. Puis c'est vrai que c'est un peu perturbant. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression, comme tu dis, que c'est peut-être juste une manière de sensibiliser les gens par rapport à ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a, tu sais, dans le fond, ça a parti de Reddit. Je trouve que ça a démarré sous une forme d'énigme qui a mené à ça. Donc, j'ai l'impression que le message est peut-être ça versus une vraie salle de torture. Surtout que les autorités, tu sais, il n'y a jamais rien eu au niveau des médiatiques ou des autorités qui est sorti à ce propos-là. Puis généralement, quand il y a des Red Rooms qui se font fermer, on est au courant. Là.
Non, exactement. Donc, c'était un peu... Moi aussi, je suis convaincu que c'est une supercherie parce que en même temps, ce site-là, tu vas pas faire tant que ça de publicité là envers une Red Room. Au contraire, tu veux que ça reste dans un petit cercle. Donc, de faire toute une espèce de flafla énigmatique autour, je sais pas, c'est un peu du vent, on dirait. Par contre, il y a toujours... On peut toujours se dire, oui, mais peut-être que la personne qui a témoigné, elle n'a pas eu accès au vrai stream, ou peut-être que la vidéo n'a pas marché, mais qu'on voyait vraiment quelqu'un. Donc, il y a quand même toujours une part de mystère. On dirait qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
Non, c'est vrai.
Mais bon, ça a l'air quand même louche tout ça. Mais ce mystère-là d'Alicia, c'est une des Red Rooms les plus populaires du web. C'est ce qui fait en sorte justement que plusieurs personnes pensent que c'est un mythe. Donc ça contribue quand même à la portion mythe des Red Rooms. Celle-là, c'est un peu comme ça qu'elle se termine, un peu en queue de poisson. Mais par contre, on a une autre histoire de Red Room intéressante, n'est-ce pas, Seb?
Oui, Emile, on a un autre cas de Red Room populaire qui est celui de la ISIS Red Room ou encore de la Chambre rouge de l'État islamique. Celle-ci a vu le jour dans le même courant que l'histoire précédente dans les mêmes années. Il y a un site Onion, encore une fois, qui vit le jour sur le dark web avec le titre ISIS Red Room Free Brutal Live. On y voit encore une fois un compte à rebours d'affichés, un lien Onion vers une chatroom et une image étrange en fond d'écran. Un homme vêtu d'une tunique, assis au pied d'un mur en béton. On ne voit pas son visage, par contre. Il porte des chaussettes blanches avec des bols de nourriture pour chiens placés au sol devant lui. Au bout de ses pieds, une affiche où il est indiqué « 29 août 2015 hashtag ISIS Games ».
Oui, comme si c'était des Jeux olympiques, là.
Oui, c'est particulier. On y retrouve aussi une section informative où on peut aller y lire « Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes près d'une zone de guerre et nous devons s'occuper de choses plus urgentes, mais nous allons y arriver à temps. » Peut-être pas dans les circonstances optimales souhaitées, mais les circonstances rendent les choses encore pires pour nos ISIS pigs.
Oui, c'est comme un peu les... Ils appellent leurs ouais. cochons, leurs pigs.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons exécuté 2 prisonniers. La réalité n'est pas très belle de notre côté actuellement. Vous pouvez anticiper des jeux bien plaisants et de la torture comme promis. Tout sera interactif et gratuit. Au moins, la première heure sera family friendly.
Ouais, family friendly.
Mon Dieu, c'est...
Je vois pas qu'est-ce qui peut être familial dans un programme comme ça.
Non, moi non plus, ça me vire tout le temps un peu à l'envers quand je lis des trucs de même.
Ouais.
Lorsque ce site fait le tour des forums Internet, il semble bien réel. Rappelons-nous que nous sommes toujours dans la foulée des nombreuses exécutions qui ont fait rage pendant un certain temps au sein de l'État islamique. Il est donc très probable que l'ISIS ait décidé de monétiser la torture d'un de leurs prisonniers. Au contraire, ça fait beaucoup de sens.
Ben, je me rappelle même à l'époque qu'ils faisaient leur vidéo de torture, d'exécution. Il y avait toujours presque des fois des équipes de tournage autour oui. d'eux. Là. Donc, ça serait pas si surprenant qu'ils diffusent ça, là, comme on disait plus tôt.
Ah non, moi, je suis aucunement surpris. Lorsque le compte à rebours se termine, le stream démarre enfin. On y voit toujours le prisonnier en tunique dans le coin d'une pièce glauque pendant plusieurs minutes. À 7 minutes de la vidéo, quelqu'un entre dans la pièce et demande au prisonnier de se lever debout à plusieurs reprises. À 12 minutes, l'homme amène une assiette avec du bacon cru et le lance au visage du prisonnier. À 15 minutes, l'homme revient dans la pièce avec plusieurs outils de quincaillerie. À un certain moment, il saisit un marteau et s'élance pour frapper l'homme au visage. C'est à ce moment que la vidéo lag de sorte qu'on ne peut pas voir le coup porté. Par la suite, on voit l'homme qui souffre dans le coin de la pièce avec du sang sur sa tunique. Par la suite, le stream se poursuit dans la noirceur totale.
Ouais, c'est assez surréel parce que finalement, cette Red Room-là n'est pas très extrême.
Non.
C'est même un peu rigolo, là. Parce qu'on y voit justement l'homme en chaussettes blanches, habillé d'une genre de tunique, avec justement des bols de nourriture pour chiens au sol, ouais. tout ça, ça a l'air assez glauque. Mais quand la vidéo commence, ça semble pas être de la vraie torture. De un, la caméra est postée comme vraiment dans un coin de la table, on voit presque rien, alors que leur but, c'est vraiment de diffuser le truc, donc faudrait avoir une meilleure prise de vue, du moins. Puis justement, l'histoire du bacon, c'est là que c'est ridicule, là, comme si lancer des tranches de bacon au visage de quelqu'un, c'était de la torture. Là,
franchement, là, même si ta religion ne permet pas de manger du bacon, j'imagine que ça doit pas faire un effet de torture à quelqu'un qui reçoit un morceau de viande versus un coup de marteau sur la tête.
Il y a même un genre de... Tu sais, on dit que... On dirait que la personne sous sa tunique joue un rôle même exagéré là, en réagissant comme si elle se faisait vraiment torturer. Puis le fameux coup de marteau qui est la seule partie un petit peu violente de cette vidéo-là, ben justement, la vidéo a bloque quand le coup est assailli. Donc, on voit juste après, c'est un petit peu violent quand même, mais on voit pas le trois quarts de l'action. Donc, tout ça laisse croire que c'est encore une fois une supercherie.
Oh oui, ça a l'air d'être une mise en scène. Mais je sais que ce genre de vidéos-là faites par l'État islamique sont aussi utilisées pour faire peur hein, aux Occidentaux, en fait, on dirait d'une certaine manière, en démontrant qu'ils sont méchants puis qu'ils peuvent torturer des gens. Donc, moi aussi, je trouve que ça a l'air d'être une grande mise en scène, malgré que il n'y a rien qui dit que ça veut pas dire que ça n'existe pas non plus.
Ben non.
Des Red Rooms gérés par l'État islamique, par contre.
Par contre, maintenant, on a une histoire totalement différente à vous raconter, vous allez voir, parce que celle-ci, elle est bien réelle, et c'est celle de Daisy's Destruction. Vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu plus dures à supporter. On va vous passer les détails, parce que c'est pas là-dessus qu'on veut s'attarder, mais l'histoire, vous allez voir, est très, très troublante. Quelque part en 2012, une rumeur circule à propos d'une vidéo très violente impliquant des enfants qui serait disponible sur le Dark Web, sur un site Onion, encore une fois, qu'on retrouve sur le Dark Web, et ce site-là est nommé Earth to the Core. Il y a même une bande-annonce promotionnelle qui se promène là à propos de cette vidéo qui se nomme Daisy's Destruction. On nous propose d'assister à la destruction mentale et physique de Daisy, un bambin qui apprend à faire plaisir à sa maîtresse. Selon la rumeur, pour visionner la vidéo, on doit payer 10 000 $. Le segment et la vidéo seraient divisés en 5 clips qui durent entre 5 et 9 minutes chacun. La vidéo expose une jeune femme masquée sous le nom de Mistress qui torture physiquement, mentalement et sexuellement 3 enfants. Daisy, tout d'abord, âgée de 18 mois, Cindy, âgée de 11 ans, et Lisa, de 12 ans, de la manière la plus extrême possible. Pour le moment, cette vidéo demeure une légende urbaine, mais le site, lui, du moins, là, existe. Donc à ce moment-là, quand la vidéo fait surface, les gens sur le web se demandent vraiment si c'est un mythe ou si ça ne l'est pas, là,
oui,
parce que la vidéo elle-même n'a jamais été découverte. On a vu que l'espèce de bande-annonce obscure.
Oui, cette bande-annonce-là se promenait même sur le web de surface.
Ben oui.
C'est ça qui était étrange, qui nourrissait encore plus le mythe, parce que habituellement, ce n'est que des. Quand il y a des Red Room ou des vidéos louches, on dirait qu'on entend juste des oui-dire ou des témoignages par écrit sans avoir même de preuves vidéo. Là, juste avec la bande-annonce qui n'est pas explicite, mais juste par son message, on dirait que ça nourrissait encore plus le fait que c'était sûrement une vraie vidéo. Là.
Mm-hmm. Ce qui n'est pas sans rappeler non plus Luca Rocco Magnotta.
Non, exactement. Ça a commencé de la même manière.
Oui, exactement. Sur un site vraiment de un site gore,
ouais,
d'horreur. Et puis les gens se demandaient si c'était vrai ou si c'était un mythe. Mais revenons un peu là, sur le fameux site, le Earth to the Core. Ça vient ça d'un style de pornographie particulièrement extrême du nom de Earthcore. C'est la contraction entre le mot hardcore, qui est un peu là, extrême, et Earth, qui est vraiment de blessé. Ce type de vidéo implique généralement de l'humiliation, des actes de torture, de la violence, des viols et de la pédophilie dans une plus large proportion. Ce type de contenu pornographique se trouve principalement sur le Darker Web, donc un web encore plus dark.
Oui.
Le site comptabilise même là, 15 000 téléchargements chaque jour. Mais c'est quoi le Darker Web, Seb?
Ben, en fait, c'est une expression qui circule sur le web qui justement, où est-ce que là, t'as du contenu encore plus grave. La drogue, généralement, là, où ce qu'on trouve sur le dark web, la drogue, les choses comme ça, c'est sur le dark web. Mais pour le monde du dark web, tout ce qui est pédophilie et tout ça, c'est le darker web. C'est plus une image pour montrer que c'est tellement grave, profond et extrême que ça se cache encore plus loin, parce que c'est vrai que ce contenu-là, il est pas facile d'accès. Hein? Ça se recherche pas par un moteur de recherche sur le dark web. Il faut avoir vraiment une adresse ou des contacts très, très précis pour y accéder.
Les autorités ont déjà à l'œil ce site-là, là, car ils ont intercepté une vidéo d'une fille forcée de pratiquer du sexe oral sur une femme âgée, et cette femme-là parlait un dialecte d'une région précise des Philippines. On sait, il faut analyser chaque petit détail quand on tombe sur une vidéo comme ça. Les autorités se retrouvent donc informées rapidement de l'existence de cette nouvelle vidéo une fois que celle-ci a été mise en ligne sous un paywall, donc un genre de mur de paiement en fait, pour acheter la vidéo. C'est à ce moment que l'on a la confirmation que ce n'est pas qu'une rumeur. La vidéo Daisy's Destruction existe bel et bien pour de vrai. Et c'est assez troublant. La vidéo étant tellement extrême, les enquêteurs qui l'ont vue et analysée pour leur enquête ont pleuré et ont même souffert de chocs post-traumatiques. Certains ont fait des cauchemars pendant des mois, ce qui n'est pas très courant en fait dans le cas de policiers formés pour faire face à ce genre de choses et ce genre d'enquête. Donc oui, ça montre à quel point c'était extrême. Puis à ce moment-là, c'est un peu les enquêteurs d'un peu partout dans le monde qui enquêtent là-dessus, parce qu'on connaît pas la nationalité du criminel derrière.
Non, exactement. Puis ce site-là étant sous le radar de plusieurs autorités quand même depuis plusieurs mois, ils ont été capables quand même de détecter, ils peuvent détecter la provenance des utilisateurs, où est-ce que le site est hébergé, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent en place généralement les autorités, la GRC du Canada, le FBI et Interpol, généralement, qu'eux s'impliquent là-dedans, parce que on le sait, ces réseaux-là de pédophiles, ces sites-là sont pas locaux, hein, c'est des gens de partout dans le monde qui y participent. Puis les autorités sont quand même assez aware de ça, hein, et ils s'impliquent tous pour tenter de régler ce problème, ce grave problème-là là, de trafic humain, entre autres. Il est difficile de repérer la provenance de la vidéo avec les métadonnées ou même l'adresse IP, hein, étant donné que c'est sur le dark web. Puis souvent, les gens qui font, qui gèrent ces sites-là, c'est des gens quand même assez habiles pour camoufler leurs traces numériques. Et les autorités, eux, doivent tenter d'amasser le maximum d'indices à partir justement des éléments qui sont présents dans la vidéo. Dans la vidéo, on y voit et on y entend la voix d'un homme avec un accent anglais particulier, un accent plus précisément qui viendrait d'Australie. C'est à ce moment-là que l'affaire est aussi confiée à la Task Force Australia, qui est la police de Victoria, de la ville de Victoria en Australie, et de la police fédérale australienne. Les autorités tentent alors d'identifier qui sont les autres filles dans la vidéo, parce que là, ils ont quand même une trace d'un homme qui a un accent australien. Donc, c'est pour ça qu'ils incluent justement la police australienne pour tenter d'avoir le maximum d'accès à des bases de données, hein, tu sais, puis un maximum d'enquêteurs de partout dans le monde. Ils décortiquent la vidéo image par image pour tenter de repérer des indices de l'endroit où cela aurait pu être filmé. Et à un moment donné, les autorités néerlandaises ont réussi à identifier précisément où, aux Philippines, se trouvaient les crimes commis sur la vidéo de Daisy's Destruction. Ça semble provenir d'un petit village. Même si l'étau se resserre de plus en plus pour capturer l'individu derrière ces vidéos, il est toujours difficile à identifier et à trouver. L'enquête se poursuit et les autorités ont maintenant une piste intéressante. Une certaine Carmen Alvarez, qui recrute des enfants dans la rue, devient une personne d'intérêt. Il y a eu plusieurs plaintes aux autorités philippinoises des parents à propos de maltraitance ou de disparition. Dans ces petits villages, plusieurs enfants pauvres sont recrutés ou même parfois certains disparaissent de leur famille, soudainement dans des buts de trafic sexuel. Parfois, ils reviennent à la maison, mais Dieu seul sait ce qui leur est arrivé entre-temps. Carmen Alvarez était de celles et ceux qui recrutent des enfants dans la rue.
Même parfois, je voyais un reportage où, tu sais, les familles pauvres vont fouiller dans les dépotoirs à ordures, en fait, pour trouver n'importe quoi, des objets à vendre ou encore de la nourriture. Et c'est là, c'est dans ces dépotoirs-là, entre autres, qu'ils vont aller recruter des petits-enfants. Ils vont leur dire qu'ils vont les ramener quelques jours plus tard ou quelque chose comme ça, puis on sait pas trop ce qui leur arrive. Ils reviennent à un moment donné. Puis comme c'est des enfants, sont... sont pas toujours troublés d'une manière apparente le retour, parce que on sait pas qu'est-ce qu'ils leur ont fait faire, mais parfois ça peut juste être des jeux un peu à caractère sexuel qui vont les troubler, mais plusieurs années plus tard. Donc, c'est vraiment vicieux là, comme tactique.
Ben oui, parce que toute leur psyché n'est pas encore construite à des jeunes enfants. Ils doivent même pas comprendre ce que c'est. Tu sais, je veux dire, à 7, 8, 9 ans, 10 ans, le sexe, ça te dit rien. Là, c'est vrai que c'est vraiment étrange. Puis souvent, même des enfants, parce qu'ils vivent des choses comme ça, ils ont tendance à pas parler parce qu'ils comprennent pas. Puis même juste de mettre les mots sur ce qu'ils ont subi, ça doit être difficile aussi si tu sais même pas ce que t'as subi en tant que tel. Non, c'est assez particulier. Carmen Alvarez est finalement retrouvée et interrogée par les autorités philippinoises. Elle confessa avoir torturé et maltraité plusieurs petites filles. Elle donna des indices qui ont permis aux autorités d'identifier l'homme caucasien, celui qui avait l'accent australien, et sa complice, qui produisent les fameuses vidéos extrêmes. Un certain Peter Scully et une dénommée Liesl Margallo, celle qui joue la maîtresse dans la vidéo de Daisy's Destruction.
Oh.
Par contre, le couple est alors introuvable. Peter Gerard Scully, 55 ans, est formellement identifié et recherché. Il est aussi recherché depuis 2011 en Australie pour fraude immobilière et il est maintenant le prédateur australien le plus recherché de la planète. Il utilisait des pseudonymes comme Peter Rydell ou Peter Russell sur le web ou aux Philippines.
Près de 3 ans après que la vidéo a été diffusée, le 20 février 2015, à Malibali, une ville du sud des Philippines, Peter Scully est finalement retrouvé et arrêté par les autorités philippinoises. Ceux-ci ont retrouvé du même coup 2 adolescentes qui étaient nues et enchaînées dans la chambre de son appartement lors de l'arrestation.
Incroyable.
Ah oui, les vidéos de l'arrestation, c'est parce que vous pouvez les trouver sur YouTube, c'est assez brutal. Là, tu vois le SWAT philippinois qui entre là-dedans, puis ils attrapent Peter Scully, puis ils le clouent au sol à la pointe de la mitraillette. Là. Donc, c'est une arrestation quand même assez importante pour eux. Là.
Ah ben oui, parce que malgré que les Philippinois sont quand même assez corrompus, eux, c'est un grave problème. Hein? Ils sont conscients de ça. Donc, dès qu'ils peuvent mettre la main sur quelqu'un comme ça, ils le font. Là. Puis tu vois qu'ils sont pas tendres avec lui, puis je les comprends. Là.
Ben
puis
oui.
Même, tu vois l'appartement où ce qu'ils trouvent, c'est tellement délabré. Tu sais, des trous dans les murs, c'est à la limite hygiénique. Là. C'est des drôles de conditions de vie.
Par contre, son autre complice, la femme masquée dans le film, est toujours recherchée. En octobre 2015, un incendie a été déclaré dans la salle où étaient stockées les preuves dans le procès contre Peter Scully. Les autorités ont donc perdu le contenu de son ordinateur qui contenait toutes les preuves, donc les disques durs, des photos, des vidéos et transactions qu'il a fait sur le dark web, tout ça a été perdu dans l'incendie.
Ouais.
Plusieurs soupçonnent que c'est un incendie criminel, car il y a beaucoup de corruption aux Philippines. Puis Peter Scully, c'est quand même un homme en moyen, là,
oui.
On va y revenir un peu plus tard. Malgré tout, les autorités sont confiantes d'avoir assez de preuves pour le faire condamner. Le 25 janvier 2017, un nouveau tournant dans l'affaire fait surface. La femme masquée qui torturait les enfants, la fameuse Liesl Margallo, de 23 ans seulement, est arrêtée par le NBI. Ça, c'est le National Bureau of Investigation, qui est le service de renseignement des Philippines. C'est un peu leur FBI à eux. Elle avait 19 ans au moment des faits, donc c'était presque une enfant, elle aussi. Elle confia aux autorités qui étaient les victimes dans la vidéo. Donc, avec les nouvelles informations en main, ils ont été en mesure de retrouver Daisy et Lisa, qui étaient présentes dans la vidéo de Daisy's Destruction, vivantes. Donc, la petite Daisy là, a miraculeusement survécu aux sévices qu'on lui a infligés pendant la vidéo. On se rappelle qu'elle avait 18 mois. Là.
Oui, puis on veut pas vous dire ce qu'elle a subi, mais c'était horrible. Puis même si c'est un bébé de 18 mois, c'est certain qu'elle va avoir des séquelles toute sa vie de ça. Là. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie.
Puis elle était déjà orpheline,
cette petite-là. Exact.
Imaginez-vous le destin tragique petite fille-là. J'espère qu'elle va avoir un bon suivi, mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ce sera le cas. Mais bon... par contre, Cindy, qui était dans la vidéo, elle aussi, a eu beaucoup moins de chance. Après que Liesl eut révélé aux autorités où la jeune Cindy se retrouvait, des fouilles complètes sont alors entamées. Cet appartement appartenait lui aussi à Peter Scully. Ils ont retrouvé le corps de la petite Cindy enterré dans une tombe qu'elle a dû elle-même creuser, selon les enquêteurs.
Incroyable.
Selon l'autopsie, elle est morte étranglée. Il l'a violée et battue à plusieurs reprises pour ensuite la tuer et l'enterrer. Liesl leur avoue aussi que son meurtre aurait été filmé et vendu lui aussi sur le Dark Web.
Incroyable.
Non, c'est vraiment intense. On n'ose pas croire que des gens comme ça existent.
C'est des monstres. Hein? Moi, je trouve qu'on ne peut pas les catégoriser autrement que des monstres.
Mm-hmm. Mais comment Peter Scully, là, un investisseur en immobilier qui est père de deux enfants, oui, en est venu à faire ça? Seb, peux-tu nous en dire plus sur ce gros dégueulasse?
On retourne dans le temps en 2011. Peter Scully quitte Melbourne en Australie pour se rendre à Manila, aux Philippines. Il se sauve car il est accusé là-bas de 117 dossiers de fraude immobilière.
Oh boy!
Il aurait volé plus de 2,68 millions de dollars à 20 investisseurs en immobilier différents. C'est ce qu'il appelle un « crooked property scheme », un genre de schéma de Ponzi d'immobilier, en fait. Là. Il vendait, il promettait des terrains qui n'existaient pas ou des choses comme ça, puis les gens investissaient bien sûr des sommes colossales. Là, je disais qu'il y avait même un des investisseurs qui a perdu, lui, 200 000 $ tu sais, puis lui, il disait qu'il était prêt à aider les autorités à le retrouver. Là, il était mieux de pas se repointer en Australie. Là. Fait qu'il y a beaucoup de monde à ses trousses, là, même déjà à ce moment-là, en 2011. Peter rencontre Carmen Alvarez, 14 ans, à son arrivée aux Philippines. Malgré son jeune âge, Carmen est une prostituée. Il lui offre de se sortir de la rue et de l'adopter comme si c'était sa fille. Un peu comme on vous parlait, hein, les gens, les enfants de cet âge-là aux Philippines sont très vulnérables, tu sais, déjà prostitués à 14 ans, donc c'est des gens qui sont faciles à enfiropper. Là. Il l'a surnommée Angel. Malheureusement pour elle, sa situation ne s'améliorera pas, comme il lui avait promis. Peter la violera à plusieurs occasions. Par contre, elle ne tenta jamais de s'enfuir. Au fil du temps, elle développa le syndrome de Stockholm, qui est la réaction psychologique des victimes qui en viennent à s'attacher à leur agresseur, puis ils tissent souvent des liens avec eux. Hein. On le sait, hein, on dirait que sous des formes de traumatisme, des fois il y a eu des enlèvements ou des hold-up, les victimes deviennent comme amoureuses de leur,
ouais,
de leur agresseur. Elle devient alors sa copine officiellement. Celle-ci va même devenir sa complice pour recruter d'autres jeunes filles vulnérables dans la rue. C'est à ce moment que Carmen recrute alors Liesl Margallo, une autre jeune prostituée. Elle est surnommée, elle, par Peter Lovely. En 2012, le trio déménage alors à Malaybalay, toujours aux Philippines. C'est à ce moment aussi que Peter s'associe à un certain Lux, L-U-X, qui est propriétaire du site sur le dark web Earth to the Core, que l'on vous parlait précédemment. Il devient producteur de contenu payant pour le site. Le contenu qu'il produit se vend très très cher et jusqu'à 10 000 $ par vidéo. Peter a besoin de créer de nouveaux contenus. Il demande alors à ses copines de recruter des jeunes filles de la rue encore une fois. Elles doivent choisir que des enfants de 9 à 12 ans. Angel et Lovely kidnappent alors deux nouvelles jeunes filles près d'un centre commercial à Cagayan. Angel et Lovely kidnappent alors deux nouvelles jeunes filles près d'un centre commercial à Cagayan de Oro, qui est un autre endroit aux Philippines, Daisy et Queenie, qui sont des cousines et âgées respectivement de 10 et 11 ans, sont alors sous l'emprise de Peter. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la Daisy de Daisy's Destruction.
C'en est une autre.
Exact. Peter a plusieurs appartements dans la ville. Une fois que ses copines lui ont fourni les filles, celles-ci retournent à leur appartement principal et laissent Peter avec les jeunes filles.
Peter leur fournit un repas, mais ensuite, en échange du repas, il leur demande de se déshabiller devant la caméra. Peter prit quelques clichés et vidéos, ensuite il leur demanda de performer un acte sexuel ensemble. Il les vendit par la suite sur le site Earth to the Core sur le Dark Web. Cela faisait maintenant 5 jours que les deux jeunes filles étaient séquestrées. Elles n'en pouvaient plus et pleuraient sans arrêt. Dès le deuxième jour, il les obligea à creuser leur propre tombe.
Incroyable.
Ouais. Lorsqu'elles crient trop fort à son goût, Peter leur mettait un oreiller sur le visage pour les empêcher de crier. Il est même arrivé à quelques reprises qu'une des deux jeunes filles se soit réveillée dans sa tombe avec de la terre par-dessus elle.
Incroyable. Il les étouffait jusqu'à temps qu'elles tombent dans les pommes, puis après ça, il les jetait dans la genre de tombe qu'il avait creusée.
Hmm. À ce moment-ci de l'histoire, Lovely et Angel, donc Liesl et Carmen, ne savent pas tout ce qui se passe avec les filles, aussi ce que Peter en fait.
Non, c'est ça.
Lorsque Carmen retourne à l'appartement, elle retrouva les jeunes filles attachées avec un collier de chien autour du cou. Et celle-ci lui raconta avoir dû creuser leur tombe et avoir été maltraitée par Peter. Angel, ben Carmen en fait, ouais, se sentit tellement coupable qu'elle libérera les jeunes filles. Selon une autre source, les jeunes filles se seraient enfuies durant une période d'inattention de Peter qui était ivre. Donc, petite, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'y est arrivé pour vrai ici.
Oui, non, c'est ça. Selon le média, il y a vraiment ces deux versions-là qui existent. Donc, à savoir laquelle est la vraie, on ne le sait pas trop.
Mais du moins, Carmen a démontré un certain un petit aspect d'humanité ici, là.
Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça la vraie version, parce que j'avais vu une interview après, par la suite, avec elle en prison, puis c'est ce qu'elle mentionnait, mais il y avait d'autres sources crédibles aussi qui mentionnaient l'ivresse de Peter.
Peter était très en colère et ordonna de trouver d'autres jeunes filles. Par un malheureux hasard, un proche de la famille de Carmen confia un bébé orphelin à Peter. Elle s'appelle Barbie O'Budd, âgée de 18 mois. Par la suite, deux nouvelles jeunes filles, Lisa, 12 ans, et Cindy, de 11 ans, ont été volontairement confiées à Peter par leurs parents, car celui-ci promettait de les nourrir et de leur offrir une éducation. Peter était un homme blanc, éduqué, et il semblait être à l'aise financièrement, donc les gens du village avaient confiance en lui. C'est un peu sur cet aspect-là qu'il jouait beaucoup son jeu, ben aussi, oui. Peter Scully. C'était comme le blanc, le monsieur blanc riche qui débarque dans le village, et lui, il peut aider tout le monde, mais personne ne se doutait de ce qu'il faisait avec les gens qui l'aidaient, entre guillemets. Là.
Non, exact, parce que là, on vous parle de ces victimes-là, là, mais il y en a eu une tonne d'autres. Là. Ces trois dernières petites filles sont les victimes de la vidéo de Daisy's Destruction. Le bébé du vrai nom Barbie a été rebaptisé Daisy, car Peter était frustré par le fait que Daisy se soit enfuie. Daisy, là, c'était dans les deux petites filles là, qui étaient attachées avec un collier, qui s'étaient sauvées.
Oui, qui avaient creusé leur tombe.
Exact. Après cette vidéo-là de Daisy's Destruction, il est flou ce que faisait Peter, et sachant qu'il était surveillé, il ne semble pas avoir créé de nouvelles vidéos, du moins d'en avoir publié. Cependant, on sait qu'il a fait plusieurs autres victimes pour satisfaire ses besoins sadiques. La preuve, justement, même lors de son arrestation, 3 ans plus tard, après la vidéo de Daisy's Destruction, il y avait encore des jeunes filles attachées dans sa chambre.
T'sais. Ben oui.
Imagine. Lors de son procès, Peter arrivait toujours d'un air relax et souriant en cours. De quoi déranger tout le monde. Si vous voulez aller voir, googler des photos, là, il est vraiment dérangeant.
Ah ouais.
C'est vrai, là, il a l'air comme heureux, là. Le premier avocat de Scully a même laissé tomber son client car il disait qu'il vivait une vie comme à l'hôtel en prison et ça le dégoûtait. Peter exigeait 5 kilos de viande de bœuf par semaine. Il exigeait 2 visites aussi de personnes extérieures ainsi qu'un cellulaire. Je vous rappelle que quitter l'Australie avec plusieurs millions en poche, hein, parce que la fraude, il est parti avec l'argent.
Mm-hmm.
La prison est très corrompue, puis les gens sont tellement pauvres et vulnérables qu'il arrivait lui à se payer... Des conditions comme ça, là, c'est pas directement les autorités là, qui lui fournissaient ça. Là, c'est qu'avec je sais pas quelle somme d'argent, mais il arrivait, lui, à avoir des droits supplémentaires malgré la gravité des crimes
ben oui.
qu'il a commis. Malgré que plusieurs preuves ont brûlé, comme on vous mentionnait plus tôt, il fait tout de même face à 75 chefs d'accusation, dont viol et production et distribution de matériel pédopornographique. Il se dit non coupable pour tous les chefs d'accusation. Selon la preuve amassée, il aurait torturé plus de 14 jeunes filles lors de ses différents crimes. En 2006, la loi aux Philippines a été modifiée pour retirer la peine de mort. Par contre, pendant le procès, le gouvernement s'est questionné à savoir s'il n'allait pas la remettre, la peine de mort, compte tenu de la gravité des crimes qui ont été commis par Scully. Finalement, ça n'a pas été de l'avant, là, mais c'était énormément discuté parce que on dirait que même si la peine de mort, c'est très... On dirait que pour un monstre comme ça, ça faisait pas de sens de le laisser toujours vivre. En juin 2018, il est déclaré coupable de trafic humain une fois et de viol à 5 reprises et condamné à la prison à vie. Il purge sa peine dans une prison australienne aujourd'hui, étant donné que c'est un Australien.
Mais il n'a pas été condamné pour meurtre?
Ben justement, c'est ça. Ça, cette condamnation-là, ce n'est que pour la vidéo de Daisy's Destruction, mais les autres vidéos de preuves, en fait, les autres preuves qu'ils ont eues quand ils ont trouvé la petite fille enterrée, tout ça, c'est un autre procès qui n'a même pas encore débuté. Donc, ces accusations-là, c'est vraiment pour la vidéo Daisy's Destruction, mais il y a d'autres, étant donné qu'ils ont eu d'autres preuves supplémentaires, là, il est accusé de meurtre et de viol, et etc., mais pour une autre cause. Il n'y a toujours pas de procès en cours, mais on s'entend, là, c'est certain qu'il va être condamné, mais sa situation ne changera pas dans le sens qu'il est déjà à prison à vie en Australie, donc il n'y aura pas, même s'il y a plus de peine sur sa tête, ben il va rester quand même le même nombre de temps en Australie, mais je pense que par éthique, ils vont quand même aller jusqu'au bout pour le condamner. On se questionne quand même après tout ça, ça fait quand même quelques années, mais la condamnation date quand même juste de l'année passée. Est-ce que la vidéo, là, elle est toujours disponible à quelque part sur le web ou le dark web?
C'est un peu la grande question, hein?
Oui, exact. Elle semblerait avoir disparu pour de bon sur le web de surface. J'ai fait plein de recherches aussi, j'ai lu des threads Reddit. Par contre, je suis tombé sur certaines rumeurs sur 4chan qui expliquaient, même avec preuve à l'appui, qu'à quelques reprises, ça s'est même retrouvé sur YouTube. Mais elle était rapidement enlevée là, pour violation des droits, bien sûr, là, à savoir si quelqu'un a pu mettre la main là-dessus. Mais moi, je trouve ça incroyable que des gens aient pu mettre ça sur YouTube. Par contre, je lisais qu'elle est encore présente sur certains torrents. Le torrent, c'est une méthode de téléchargement. Elle existait sur certains sites de torrents privés avec du contenu pédopornographique. Donc, oui, elle est encore présente sur le dark web. Il y a une autre rumeur qui circule sur une autre vidéo que Peter Scully aurait produit, qui s'appelle Dafu Love, D-A-F-U, qui aurait été dans le même genre, là, qui aurait eu de la torture de plusieurs autres jeunes enfants qui avaient été diffusés dans une rent room. Par contre, il n'y a pas de traces crédibles qui confirment l'existence de cette vidéo-là. Il y a beaucoup de rumeurs. Là, si vous googlez Dafu Love, vous allez voir, mais ce n'est que des rumeurs. Il n'y a pas de traces. Les autorités n'ont jamais nommé cette vidéo-là ou quoi que ce soit. Donc, elle reste plutôt dans le mythe. Puis en terminant, Peter Scully travaille actuellement sur l'écriture d'un livre qui nous dit qu'il racontera toute son histoire. Burk, hein, tu sais, moi, sincèrement, là, jamais je vais acheter ce genre de livre-là. Oh là, j'étais d'accord à ce qu'on en parle dans le podcast, parce que tu sais, on dirait qu'on est toujours déchiré entre leur donner de la visibilité, mais je trouve que nous, on le fait parce qu'on veut aussi dénoncer ce genre de monstre-là, mais d'acheter son livre, moi, ça, pour moi, ça me dépasse, là. Tu sais, même, je me demande, tu sais, je suis pas pour la censure, puis mais tu sais, même d'autoriser quelqu'un à publier, on dirait, un livre comme ça, on dirait que pour moi, ça dépasse ma propre morale et mon éthique, là.
Il y a des endroits où c'est interdit, hein, donc je sais pas si lui va réussir à le faire, mais non, c'est pas le genre de livre qui est très intéressant. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec les gens du site web, entre autres le site Earth to the Core, parce qu'eux aussi, c'est des méchants dérangés.
Ben oui, en fait, tout est dans tout, hein. On revient au site Earth to the Core, où ce que la vidéo de Daisy a été retrouvée. On le sait, ces sites-là sont durs à fermer par les autorités, hein, un peu comme les sites de drogue, Silk Road, etc. Sur le site Earth to the Core, il y avait du contenu gratuit à type pédopornographique, pardon, mais il y avait aussi du contenu payant, là, les fameuses Red Room. Heureusement pour nous, en 2011, le groupe de hackers activistes Anonymous, eux ont lancé une immense opération pour dévoiler au grand jour les pédophiles et les sites à caractère pédophile sur le dark web. Puis on le sait, hein, quand Anonymous se lance sur quelque chose, généralement, ça amène à des résultats. Ils ont hacké, entre autres, un site qui s'appelait Lolita City en 2011, qui était un forum qui était lié justement à de l'échange de matériel pédopornographique. Eux, ils ont réussi à extirper toute la liste des membres, les adresses IP, les courriels, etc. Et ils ont monté une liste, ils ont envoyé ça au FBI. Et à partir de là, le FBI ont repéré, entre autres, un pseudonyme Lux, L-U-X, qui avait remarqué aussi ce pseudonyme-là sur le site Earth to the Core, qui surveillait également là, à cause du contenu qui s'y circulait. Donc, après une enquête de 2 ans, finalement, les autorités ont finalement réussi à identifier le propriétaire du site. Encore une fois, c'est les mêmes autorités qui travaillaient sur Daisy's Destruction parce que c'était un peu le même cas indirectement.
Oui, c'est très lié.
Oui, exact. Fait que c'était la GRC du Canada. Ça, j'étais quand même fier que la GRC travaille là-dessus. Le FBI, Europol et bien sûr la Task Force, de l'Australie. Si on ajoute les informations qui ont été fournies par Anonymous, ça a créé une énorme traction sur le site, puis ça a vraiment aidé à faire fermer son site. Donc là-dessus, Anonymous ont été d'un grand aide. Hein. Puis là, je fais abstraction, mais ils ont dévoilé là une tonne de sites web et d'utilisateurs. Là. C'était cette opération-là de Anonymous a débordé là que site Earth to the Core. Là. C'était une tonne d'autres sites. Le site appartenait à Matthew David Graham. Écoutez ça, des fois, on ne sait jamais qui est derrière les choses. Ouais. Lui, il avait 22 ans au moment de son arrestation et c'était un étudiant en nanotechnologie. Tu sais, c'était pas un niaiseux, là, tu sais.
Ouais. On a tendance souvent à avoir des stéréotypes, hein, ben puis oui. À penser que les pédophiles ou les prédateurs en ligne sont tous des hommes de 55 ans en imperméable, bedonnant, avec une mauvaise hygiène.
Oui, alcoolique. Puis,
oui, c'est ça, mais c'est monsieur, madame, tout le monde aussi. Là.
Quand Matthew avait 18 ans, il était sur le point de terminer ses études à Leaping Secondary College là, dans le nord de Melbourne. Et il vivait une vie tranquille avec ses parents dans une banlieue. Pour gagner de l'argent même à cette époque-là, à 18 ans, il offrait des services de gardiennage d'enfants. Oh. Tu sais, des jeunes enfants. Et quand les voisins ont appris ça, là, les enfants qui ont déjà confié, les parents, pardon, qui ont déjà confié leur enfant à Matthew, là, ils capotaient. Heureusement, il semble pas eu d'avoir d'attouchement ou quoi que ce soit sur les enfants qu'il gardait, mais quand même, là. Donc lui, là, sous les portes closes de sa chambre à coucher, là, parce qu'à l'époque qu'il a démarré ça, là, il avait 18 ans, il menait une vie vraiment différente. Là. Il avait le pseudo Lox. Il contrôlait un réseau de sites et de forums qui étaient dissimulés sur le dark web utilisé par les pédophiles, parce qu'il n'y avait pas juste le site Earth to the Core. Là. Les membres potentiels devaient fournir une quantité définie de contenu original pour pouvoir rejoindre ces sites. Justement, il y avait Earth to the Core, il y avait Love to the Core, et j'ai su qu'il y avait une dizaine d'autres sites, donc qui a été accusé aussi pour pédophilie et gestion de sites et trafic, etc., là, de matériel pédopornographique. Donc, c'était vraiment un méchant salaud. Hein. Puis même, je lisais que dans la communauté de pédophiles, les pédophiles normaux, là, si on peut dire, détestent ce genre de pédophiles-là parce que c'est de la torture pour eux, ce sont des vrais monstres là, tu sais.
Ben oui. Ah non, c'est assez troublant là. On se rend compte que ce site là, cet homme là, le Matthew Graham, mm-hmm. et Peter Scully, ils géraient vraiment un gros réseau ensemble. Ouais. Là. C'était autant, c'est un site qui encourage la production, donc c'est une chose de regarder ce type de matériel là, j'en conviens, entre le faire puis passer à l'acte, il y a quand même une différence, oui. là, même si en regardant ça on contribue à cette industrie-là, là, ouais, qu'on le veuille ou pas. Mais vraiment, ces deux-là semblaient être vraiment là, à la tête d'un réseau qui est à la fois de création de contenu et de diffusion de ce contenu-là. Ouais. Puis en plus, ces sites-là, Earth to the Core, ils favorisaient la création de contenu,
ben oui.
justement en demandant à leurs membres de créer un nombre défini de contenu par mois. Donc, c'est complètement malsain tout ça. Là. Je comprends non seulement la communauté de pédophiles de réagir contre ça, mais c'est du dommage contre l'humanité là, de haut niveau.
Ah oui, ça a pas de bon sens, là. C'est des monstres. Là. Puis ça revient un peu à la phrase que tu disais tantôt, là, le mal engendre le mal. Mm-hmm. On dirait que ça répond à... C'est directement lié, en fait, là, justement, le fait qu'il faut qu'ils produisent du contenu pour accéder à du contenu. Donc, c'est vraiment nourrir le mal par le mal.
Oui, puis il semblerait même que, tu sais, je l'excuse en rien, mais il semblerait même que Peter Scully, de ce qu'il disait en interview, quand il était arrivé aux Philippines, il disait qu'il n'était pas comme ça, en fait, qu'il a changé, sa personnalité a changé.
Ouais, ça, j'ai de la misère à croire, mais je lisais par contre de d'autres sources, mais j'ai pas de confirmation qu'il gérait une agence d'escorte aussi en Australie, là. Fait que peut-être qu'il y avait peut-être déjà une certaine habitude avec la prostitution, mais c'est vrai qu'au niveau des jeunes, même qui ont été j'ai lu des témoignages de ses amis ou tout ça.
Il y a des enfants aussi.
Oui, ben oui, il y a des enfants, je pense, qui sont adultes. Il y avait une femme là, aussi, là, mais jamais eux se sont doutés de quoi que ce soit de ce côté extrêmement pervers-là de Peter Scully. Là. Je sais pas si c'est l'argent. À la base, je pense qu'il faut que tu sois un peu cassé par en dedans là, pour faire ça, mais si tu ajoutes à ça l'argent qu'il y avait... Tu sais, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, là. Tu sais, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Je sais pas si c'est en lien avec ça, mais il y a quelque chose que j'ai de la misère à m'expliquer, ce qui peut te motiver en tant qu'être humain à faire ça. Puis même dans les entrevues, Peter Scully, il arrivait même pas lui-même à expliquer ça. Là. Il dit qu'il comprenait pas, que c'était pas nécessairement une pulsion. Là. Il le faisait comme ça. Tu sais, c'est une drôle de raison.
C'est le pouvoir. Je pense que le pouvoir et l'argent corrompt aussi, là, tout comme le mal. Puis à un moment donné, ben quand tu sais plus quoi faire de ta vie, tu tombes dans des espèces de hobbies extrêmes comme ça, là, si je peux me permettre le terme. Là. Mais bon, au moins, il est derrière les barreaux pour la perpétuité, puis on n'aura plus affaire à lui. Puis en même temps, sa condamnation va avoir un peu levé le voile aussi sur toute une communauté de gens dérangés qui opèrent, qui créent du contenu sur le dark web comme ça, là.
Il y a aussi Matthew Falder qui a été condamné aussi pour ce type de crime-là, Earthcore, et qui fournissait du contenu au site Earth to the Core. Lui aussi, je pense, c'est prison à vie. Il venait du Royaume-Uni. C'est drôle que tous ces gens-là, tous ces gros producteurs-là, ils venaient à peu près tous de la même place. Moi, on dirait que c'est ça qui me dérangeait là-dedans, c'est qu'on se rend compte que, oui, il y a peut-être beaucoup de cercles de pédophiles, mais en même temps, ça reste des petits cercles. Des petits cercles, c'est toujours trop, là, mais quand même, tu sais, ça reste quand même un nombre quand même limité d'individus qui ont accès à ce matériel-là, malheureusement, à cause de l'Internet. À la lumière de tout ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les Red Rooms existent pour vrai?
Oui, bonne question, Seb. Ben moi, je suis convaincu qu'elles existent, en fait. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu tombes par hasard.
Non.
Donc, tu sais, je suis tellement convaincu que il y a tellement de gens dérangés dans notre monde actuel que je serais pas surpris qu'elle existe pour vrai. Tu sais, on l'a vu avec Peter Scully, avec Earth to the Core, ces sites-là, quand même assez extrêmes. C'est sûr que ça existe quelque part, là, tu sais. Selon moi, il y a une volonté pour certaines personnes de regarder du contenu comme ça, puis il y a une demande. Il y a des gens qui veulent payer pour ce prix-là, tu sais. Mais par contre, est-ce que c'est répandu? Je pense pas. Tu sais, c'est une petite minorité sur le dark web. Puis même, faut avoir les bonnes connexions, faut avoir accès au bon sous-forum. Là, tu parlais du darker web tout à l'heure, mais faut avoir accès un peu à ces cercles-là pour pouvoir arriver à des endroits comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas trouver sur Reddit ou que tu vas trouver facilement. Faut vraiment que tu sois un initié. Par contre, tous les sites souvent qui se prétendent Red Room, on l'a vu un peu comme Alicia ou comme la Isis Red Room. Mais ça, j'ai l'impression qu'on tombe un petit peu plus dans la supercherie. Je pense pas que des sites se publiciseraient comme étant en étant des Red Room officiellement.
Ben non.
Si tu fais une publicité pour ta Red Room, tu vas un peu à l'envers du concept. Il faut que ça reste secret puis que personne trouve ça. Mais malheureusement, des cas un peu comme Peter Scully nous prouvent que ça existe ou que ça a déjà existé.
Non, exact, parce que c'est pas juste l'argent, hein, tu sais, t'as beau avoir, être millionnaire, ça veut pas dire que tu veux consommer ce genre de contenu-là, là, tu sais.
Mais non.
Faut être vraiment fou, là.
Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Seb?
Ben moi, ça m'a un peu traumatisé d'une certaine manière de travailler là-dessus. Ça me confirme que ça existe, tu sais, des chambres de torture où, tu sais, c'est un peu de l'imaginaire, là, quand on voit les chambres de torture, on dirait que c'est plus théâtral que ça l'est, là, tu sais. Disease Destruction, je n'ai que vu que certaines captures d'écran, mais qui étaient pas violentes, je voulais pas aller vers ça, tu sais, parce que, ben, de un, c'est illégal, hein, de visionner ce contenu-là. Dans la majorité des pays, juste de visionner du contenu pédopornographique est illégal. Donc, moi, je vous conseille pas de faire des recherches par rapport à ça, parce que vous savez jamais, là. Puis de deux, j'ai lu des témoignages sur Reddit de gens qui ont eu la curiosité un peu malsaine d'aller voir, puis ils disent qu'ils s'en remettront jamais, là. Un peu comme on vous a parlé des policiers qui l'ont vu, eux, parce que c'était leur travail, tu sais, qui ont eu un choc post-traumatique, imaginez, là, tu sais. Donc, si vous avez une curiosité malsaine, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Puis même, j'ai été, en fouillant là-dessus, j'ai été surpris par une statistique sur le dark web qui m'a jeté à terre. Tu sais, je savais que le dark web, il y a pas juste du beau, là, du beau contenu, puis je sais qu'il y a beaucoup de drogue, mais il y a une étude de Wired, le fameux magazine américain Wired, qui date de 2014, qui révèle que plus de 80% des visites sur le dark web, donc c'est 4 visites sur 5 sur un site web, sont principalement pour consulter du contenu pédopornographique. Imaginez, là, 80%,
quand même.
C'est fou, là, 80% des visites. Par contre, le contenu pédopornographique, sur le dark web représente que 2%. Ça veut dire qu'il y a une grosse majorité de monde qui consomme cette petite portion de contenu là.
Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre de contenu probablement même.
Ben oui, absolument, tu sais, puis c'est moi ça m'a jeté à terre, jamais j'aurais pensé que c'était 80%, tu sais, oui, 40, 30 parce que je sais qu'ils s'achètent beaucoup de drogue là, tu sais, le dark web honnêtement là, ça doit être j'avais vraiment l'impression que c'était la drogue qui était majoritairement là, puis je pense en termes de contenu, je pense que c'est ça aussi, le drogue, arme, etc. Mais là, ça m'a fait un méchant choc. Hein. Puis dites-vous, Tor, le browser Tor, lui, il sort des statistiques, puis il y a environ 3 millions de personnes par jour qui se connectent au dark web. Donc dites-vous que 80% des 3 millions... Ça fait beaucoup de contenu pédopornographique qui est consulté sur le dark web. Moi, ça m'a jeté à terre, là.
Ben, ça fait un peu le tour de cette histoire triste, mais je pense d'une certaine façon nécessaire. Ça fait un bout qu'on voulait en parler.
Oui.
On savait pas trop comment aborder le sujet aussi. On voulait le faire sans trop de sensationnalisme aussi, puis en même temps d'expliquer un peu le phénomène de trafic sexuel dans ces régions-là, oui. Comme les régions plus pauvres des Philippines, puis d'expliquer un peu que oui, en fait, il y a des gens qui cherchent des personnes vulnérables, il y a des gens qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs sadiques, puis que vraiment, c'est des gens un peu comme tout le monde. C'est pas tous des gens qui ont l'air d'être des criminels endurcis qui font ce genre de commerce-là. Donc, très, très troublant et malheureusement, ça va peut-être en empêcher quelques-uns d'entre vous de dormir ce soir. Bon, mais si vous voulez continuer à suivre Distorsion, oui. Chers amis, vous savez où le faire. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Distorsion Podcast, sur Twitter aussi, Distorsion Pod, Facebook, Distorsion Podcast. N'oubliez pas qu'on a un groupe de discussion privé sur Facebook que vous pouvez rejoindre en faisant une demande.
Oui.
Tous nos podcasts sont sur distorsionpodcast.com et sur toutes les autres plateformes. On vous rappelle que vous pouvez aussi faire l'acquisition de notre livre, Distorsion, oui. 13 histoires étranges de l'ère numérique, publié aux éditions de l'Homme, illustré par Run, vraiment un produit qu'on adore. Sinon, on est dans votre télé au Québec, sur Moi et compagnie, les mercredis à 20h30. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Comme le disait Nietzsche, celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un distordu.
Oh!